Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Info.
C'est donc une première en matière de contentieux climatique. La Cour européenne des droits de l'homme condamne un État, en l'occurrence la Suisse, pour violation de la Convention des droits de l'homme. C'est une association de retraités suisses, les aînés pour la protection du climat, c'est leur nom, qui accusait leur pays pour leur inaction, pour son inaction sur ce sujet. 16 voix contre une, on rentrera dans le détail dans un instant. D'abord, une réaction, une voix qu'on connaît, son nom en tout cas, la militante Greta Thunberg. Ce n'est qu'un début, c'est ce qu'elle a dit ce matin, elle était à l'audience.
Ce n'est que le début en matière de contentieux climatiques. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leurs gouvernements devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas, nous ne devons reculer. Nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début, car dans une situation d'urgence climatique, tout est en jeu.
Voilà pour Greta Thunberg. Deuxième réaction, et on est en débat, l'eurodéputée écologiste Karima Delli. Cette décision, dit-elle, doit aider les politiques.
On a ce Green Deal. Il n'est peut-être pas assez à la hauteur des ambitions, parce qu'on doit réellement se dire les politiques publiques doivent être alignées sur cette stratégie, notamment bas carbone. Actuellement, la feuille de route, elle n'est pas assez ambitieuse, mais elle existe. Donc, il faut se doter maintenant d'un plan de relance réel financier pour faire cette transition, de mettre en place le Green Deal et en même temps un plan qui va accompagner les populations les plus pauvres. Parce que ce que dit cette décision, et c'est ça qui est énorme, c'est les populations les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, aussi les personnes en situation de précarité, qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique.
Voilà, Karima Delli, invitée politique de France Info ce soir. Bonsoir Arnaud Gosman.
Bonsoir.
Avocat en droit de l'environnement, vous êtes aussi professeur associé à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comment vous définiriez-vous ce que dit la CEDH à la Suisse et au monde, finalement ?
Elle cherche un équilibre, hein. C'est le mot équilibre qui est le plus important. Elle cherche un équilibre entre, d'une part, la consécration d'un nouveau droit de l'homme, le droit à une protection effective des États contre les aléas du changement climatique. C'est un droit de tout individu, suisse ou non d'ailleurs. Un équilibre entre ce nouveau droit de l'homme et, d'autre part, la marge d'appréciation nationale des États. On est dans un régime de séparation des pouvoirs. Ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, ni aucun juge d'ailleurs, qui va dicter la règle de droit, qui va indiquer ce que doit être la loi. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme demande à l'État suisse cohérent. L'État suisse, comme bien d'autres États, a affiché des objectifs ambitieux de lutte contre le changement climatique, notamment en signant l'accord de Paris de 2015. Reste à définir des moyens pour atteindre ces objectifs. Ce n'a pas fait ici l'État suisse, c'est de définir ses moyens, et plus précisément, on peut en parler si vous le souhaitez, le budget carbone qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est cet équilibre ici qui est trouvé par la Cour européenne des droits de l'homme.
Si on vous suit bien, elle oblige finalement les États, en l'occurrence celui-ci, à appliquer ce à quoi ils se sont engagés, mais pas forcément au-delà.
Tout à fait. En droit, on parle d'obligation naturelle. Lorsque vous prenez un engagement, il arrive que le juge puisse vous l'opposer. Vous n'avez pas le droit de faire des promesses vaines. En l'occurrence, vous n'avez pas le droit sur la scène diplomatique internationale, lorsqu'il y a des grandes COP et des conférences des Nations Unies sur le climat, d'afficher des objectifs très ambitieux. Mais une fois revenu à la maison, lorsque vous êtes gouvernant, eh bien, de ne pas définir les moyens pour parvenir à ces objectifs. Ce qui est important avec cette jurisprudence, c'est que grâce au socle des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme impose, ici à la Suisse, mais on imagine bien à d'autres États, d'être cohérent entre les objectifs et les moyens qui doivent être alloués pour ces objectifs.
Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on pose sur la table de façon aussi claire le lien entre droits de l'homme et climat. C'était pas forcément une évidence et dans le débat public en tout cas, ça, c'est au moins une date, hein, Paul Barcelone.
Bah, alors déjà, je crois que c'est la première fois sous votre contrôle et celui d'Arnaud Gosman qu'un État en tant que tel est condamné par la CEDH.
Absolument.
Et on se souvient que la France, par exemple, avait déjà été condamné notamment à réparer un préjudice écologique ou pour déjà ses faits environnementaux et ses questions écologiques, mais à l'intérieur même du pays, par des tribunaux administratifs,
Conseil d'État.
C'est ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire du siècle. Donc là, c'est la première fois que c'est un pays condamnée par la CEDH, ce qui renvoie évidemment au mécanisme du Conseil de l'Europe. Et d'ailleurs, j'observe que les réactions ont tout de suite été nombreuses, notamment du côté de la droite radicale suisse, qui a appelé la Suisse à sortir du Conseil de l'Europe. Mais ce que ça montre, et là où c'est intéressant aussi cette décision de la CEDH, c'est qu'il y a une explosion aujourd'hui des affaires environnementales devant les tribunaux, et que les tribunaux sont devenus un espèce d'outil clé du combat climatique pour les militants écologistes qui n'hésitent plus à aller traîner leur propre pays devant les tribunaux climatiques, et devant les tribunaux classiques, voire aujourd'hui supranationaux. C'est en ça aussi que c'est extrêmement intéressant, c'est un nouvel outil.
L'échelon européen, Arnaud Gosselin, il est important, parce que c'est vrai qu'en France, il y a eu des décisions du Conseil d'État, et en l'occurrence, on pourra dire un mot aussi du fait que Damien Carême, en tout cas la mairie de Grande-Synthe, qui avait obtenu gain de cause pour faire condamner la France en France, n'obtient pas de gain de cause aujourd'hui devant la CEDH.
Oui, vous avez raison.
La question, c'est est-ce que l'échelon européen, finalement, sera plus efficace, plus opérant ?
Non, on a besoin de tous les leviers, que ce soit les recours ou les autres types d'actions pour le changement climatique. Le niveau européen est très important parce qu'il va permettre d'harmoniser les jurisprudences nationales, puisque la jurisprudence européenne des droits de l'homme s'impose, bien entendu, non seulement aux législateurs nationaux, mais aussi aux juridictions nationales qui vont suivre cette jurisprudence, qui a été aujourd'hui en plus rendue par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est aussi important, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas souhaité ouvrir les vannes du contentieux et donner la faveur à une multiplication des recours en justice. Vous l'avez dit, toutes les personnes physiques qui s'étaient présentées devant la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, ont toutes été déclarées irrecevables. C'est l'association des Émis Suisses uniquement qui a été déclarée recevable. Le message est important. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de recours. Ça veut dire, si vous le faites, vous devez avoir un bagage de preuves extrêmement solide pour démontrer votre qualité de victime au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une façon aussi de limiter les recours pour que les plus sérieux puissent émerger du lot et s'avérer véritablement productifs. C'était le cas aujourd'hui de cette association des Émis Suisses pour le climat.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Barcelone de France Info, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters, Alban Micosi de France Télévisions et l'avocat en droit de l'environnement Arnaud Gosselin. Il y a une espèce de paradoxe, messieurs, dames, quand même, à constater que l'une des principales actions peut-être maintenant des politiques, ça va être de soutenir des recours pour prouver que les politiques sont inefficaces en matière de lutte contre l'environnement. Je ne sais pas qui veut répondre. Arnaud Gosselin, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Oui, alors je me permets effectivement de vous soumettre. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné les États. Et trop souvent, on réduit les États à la personne de leur gouvernement. Or, un État, c'est bien plus qu'un gouvernement. C'est évidemment un appareil d'État avec son administration, les trois pouvoirs, mais c'est aussi un territoire et une population. Lorsqu'un juge, comme le Conseil d'État et aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, condamne un État, évidemment que cet État est représenté devant elle par un gouvernement et que c'est lui qui va devoir ensuite proposer des lois ou des règlements pour lutter contre le changement climatique. Mais ça oblige en réalité tout le monde, de manière commune mais différenciée. Un simple citoyen n'a pas la responsabilité d'un directeur d'une multinationale ou d'un chef d'État. Mais pour autant, il ne faut pas réduire l'État simplement au gouvernement et bien comprendre que c'est une responsabilité collective ici qui est aussi recherchée par le juge.
Et que la CEDH n'ouvre pas la porte à toutes les possibilités. Encore une fois, la requête suisse, elle est présentée par une association qui a réussi à prouver que ces personnes, ces femmes âgées de plus de 64 ans, étaient particulièrement sensibles aux problèmes de pollution et qu'elles étaient en danger elles-mêmes.
C'est finalement ça qui va les contraindre, enfin contraindre l'État suisse à passer la vitesse supérieure.
Du moins, sur ce point, on va voir quelles seront les propositions de l'État suisse. C'est intéressant pour la requête portugaise, qui était une requête très très large, qui était plus générale, puisqu'elle visait 32 pays de l'Europe. Cette requête, elle a été repoussée. Alors, d'abord, pour une argumentation juridique toute simple, c'est que tous les tribunaux, tous les niveaux de responsabilité des tribunaux portugais n'avaient pas été encore contactés, n'avaient pas donné leur avis.
Donc, on va attendre. Les recours n'avaient pas été épuisés.
Voilà, on va attendre que ça aille au bout des recours au Portugal. Ensuite, peut-être que l'action reviendra. Mais là, elle sera plus complexe parce qu'il s'agit de demander à 32 pays de se mettre d'accord sur les mesures. Là, techniquement, juridiquement, c'est beaucoup plus compliqué.
Sur ce paradoxe, Elisabeth Pinault.
De toute façon, ce qu'on retient, c'est un peu ce combat de David contre Goliath qui s'est passé aujourd'hui. Après, la balle est évidemment dans le camp des États. faire davantage pour protéger le climat. Et apparemment, en ce moment, ce n'est pas vraiment la tendance, en tout cas en France, voilà, où les écologistes ne sont pas donnés très haut aux élections européennes, où le gouvernement dit qu'il fait beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Voilà, la balle est évidemment dans le camp des États et l'histoire continue. C'est une victoire symbolique.
À votre connaissance, pas de réaction à l'Élysée?
Oui, moi j'ai interrogé le ministère de la Transition écologique, mais dans la mesure où la demande française de l'ancien maire de Grande-Synthe a été rejetée, voilà, il n'y a pas eu de réaction.
Sauf que ça oblige, Arnaud Gosselin, je passe sous votre contrôle, ça oblige quand même l'ensemble des États. Enfin, tout le monde ne peut pas s'en laver les mains.
À très court terme, cet arrêt oblige la Suisse, et notamment à faire un chèque à cette association.
À quelle échéance d'ailleurs?
La Suisse a 3 mois pour verser 80 000 euros à cette association. Mais c'est évidemment pas ce qui était recherché par l'association. Non, lorsqu'on lit l'arrêt, toute une partie de l'arrêt, très didactique, pédagogique, très détaillée, précise quelles sont les obligations positives des États en général. Évidemment, ceux membres du Conseil de l'Europe, mais des États en général face au changement climatique. C'est la partie la plus importante. Et la France aurait bien tort de s'épargner la lecture de ce passage de l'arrêt, car demain, qui sait, il y aura peut-être un recours, peut-être même devant un juge national qui pourra appliquer la Convention européenne des droits de l'homme telle que la Cour propose de le faire et reprocher à la France les lacunes de son droit, parce que la France aujourd'hui a des lacunes. Il y a notamment un projet de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est attendu depuis juillet 2023 et qui aurait dû être voté depuis et qui n'a toujours pas été présenté au Parlement au motif que les élections européennes dérangeraient le débat.
Mais vous voulez dire ça peut faire l'objet du coup aujourd'hui Pardonnez-moi, ça peut faire du coup l'objet, ce retard peut rendre la France condamnable, c'est ça que vous voulez dire?
Alors attention, je ne voudrais pas donner d'idée de recours, c'est pas du tout mon rôle.
En tout cas, puisqu'elle puisse être poursuivie, quoi.
C'est ça. Alors, ceci étant, je le répète, la Cour européenne des droits de l'homme a fortement élevé le niveau d'exigence qui pèse sur les requérants qui souhaiteraient la saisir. Non seulement il faut saisir l'État dans lequel vous êtes résident, non seulement il faut épuiser les voies de recours nationales, mais ensuite il faut démontrer que l'on est victime au sens de la Convention, comme M. Damien Carême n'a pas rapporté cette preuve. Et donc, ça fait quand même beaucoup de conditions pour saisir la Cour. Mais un jour ou l'autre, peut-être que la France sera interrogée.
C'est une décision en tout cas qui tombe alors qu'on a aujourd'hui les chiffres de l'Institut Copernicus qui tombent régulièrement mais qui nous rappellent et qui nous informent que les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, 1,58 degré de plus que dans le climat de la planète au 19e siècle. Le hasard fait quand même les choses efficacement, on va dire.
Ça pose deux questions. D'abord, celle de l'objectif Paris, l'objectif de 1,5. On comprend très clairement qu'il est de plus en plus intenable tel quel. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Est-ce qu'il faut définir un autre objectif? Est-ce qu'il faut tenter quand même d'arriver au plus proche? Ça, c'est des questions qui se posent à nos gouvernants. Et puis, le deuxième, il se pose plus aux particuliers. Vous savez, on entend très régulièrement mais cet automne, ce printemps a été pluvieux, froid, etc. C'est oublier que c'est un phénomène de réchauffement mondial et qu'il ne faut pas mesurer à l'aune de la météo chez soi, mais au niveau climatique mondial, au réchauffement global des océans, par exemple.
Pardon, non, Elisabeth, allez-y.
Quand on interroge le gouvernement, il dit qu'il fait sa part. Alors évidemment, le gouvernement, il est sur le court terme. On sait que par exemple que MaPrimeRénov' pour rénover son logement et le rendre plus étanche, elle est remise en cause par les problèmes budgétaires du gouvernement. Quand on interroge Emmanuel Macron, il dit voilà, la France fait sa part avec le plan hydrogène, avec les voitures électriques, et pour l'instant, on est sur le bon chemin. Mais ce n'est évidemment pas suffisant et c'est évidemment un problème mondial.
Deux choses, cette décision, il ne faut pas oublier qu'elle va faire jurisprudence. On a commencé cette émission en disant c'est la première fois qu'un État est condamné par la CEDH, donc ça ouvre une brèche en quelque sorte. Et évidemment, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Bérangère, c'est-à-dire qu'à l'avenir, la France est potentiellement condamnable. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est une décision juridique, mais qui aura forcément à long terme des conséquences aussi politiques. Et on voit bien dans ce que dit Karim Adeli, eurodéputée écologiste sortante d'ailleurs, que c'est déjà un argument utilisé par les politiques de dire, moi si j'avais été au gouvernement aujourd'hui, peut-être que la donne n'aurait pas été la même. Et Emmanuel Macron, il a aussi un angle mort dans sa politique, c'est cette inaction climatique sur laquelle ses adversaires politiques vont régulièrement le chercher. Et l'écologie est pour lui un angle mort sur lequel les oppositions essayent régulièrement d'enfoncer un coin. Donc il y a évidemment là-dessus aussi une manœuvre politique, ou en tout cas une sphère politique à prendre en compte.
Juste pour conclure, Arnaud Gosselin, je rebondis sur ce que disait Alban Micosi sur les engagements de l'accord de Paris. Ça, c'est quelque chose qui peut atterrir devant les tribunaux. Il peut y avoir une poursuite de se dire, voilà, tous ces États se sont engagés, savaient-ils ou pas, c'est difficile à dire, mais qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils ne comptaient pas mettre en tout cas, ils n'ont pas mis les moyens pour y arriver. Et en tout cas, le résultat est là. Est-ce que ça peut atterrir devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant un tribunal?
Alors, devant un tribunal, qu'il soit national, européen, vous ne pouvez pas directement invoquer les dispositions, les objectifs de l'accord de Paris, de la COP21 qui s'était déroulée à Paris, justement. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on appelle un outil d'interprétation. C'est-à-dire que le juge, et d'ailleurs le Conseil d'État dans l'affaire Grande Synthe de 2020 puis 2021 l'a déjà fait, le juge peut se servir de l'accord de Paris pour interpréter les lois nationales. C'est-à-dire qu'il peut aussi vérifier la qualité des engagements qui sont pris par les États au regard de ce à quoi les États eux-mêmes se sont engagés en signant l'accord de Paris. Donc cet accord a un effet indirect, ne peut pas être directement invoqué, mais oui, évidemment, il serait tout à fait idiot de considérer que c'est juste un accord de papier. Les juges sont de plus en plus sensibles aux engagements, aux devoirs de cohérence des gouvernants lorsqu'ils parlent de changement climatique. L'époque où les gouvernants se disaient « je peux faire des discours sur la scène internationale et une fois rentré à la maison, je vais surtout écouter les personnes qui ne souhaitent pas avancer en matière de changement climatique », cette époque-là, les juges nous disent que c'est révolu.